9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, alors je vous rappelle que ça veut dire à votre santé, on s'occupe de votre santé tous les jours. Et vous savez, il y a une expression qui dit pile poil. Mon invité arrive pile poil. Hein. 9h, pas très en avance, mais à l'heure en tout cas. Voilà, on va vous laisser vous installer, vous rapprocher de votre micro.
Il est 9h.
Il est 9h. Bien. C'est le docteur Réginald Allouche, un petit nouveau sur Beurre FM. Vous êtes médecin nutritionniste. Vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous publiez la méthode Hépato-Détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie aux éditions Albin Michel. Le foie, c'est l'organe clé de l'amincissement. Et c'est vrai que le foie, on n'en parle jamais finalement.
On n'en parle jamais pour une bonne raison, c'est que le foie est un organe particulier. Il n'a pas de terminaison nerveuse dans son cœur, dans sa matrice. Mmh. Donc il ne fait jamais mal.
D'accord.
Comme il ne fait jamais mal.
On n'a jamais mal au foie, contrairement à ce qu'on dit. Quand on dit on a une crise de foie ou j'ai mal au foie, ça voilà. C'est faux.
La crise de foie, c'est souvent un problème biliaire, de la vésicule biliaire qui se tend, qui fait mal. Et à ce moment-là, on dit qu'on a une crise de foie. Mais ça n'existe pas, la crise de foie. Le jour où vous avez vraiment mal au foie,
c'est mauvais signe.
C'est le début des ennuis. Voilà. Et en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Alors, bien sûr, c'est une méthode qui permet de perdre du poids, mais surtout, il faut comprendre que c'est au sein du foie que tout se fait. Pourquoi ? Parce que le foie, il a une fonction d'épuration. Vous savez, on a 5 organes d'épuration qu'on appelle des émonctoires. C'est-à-dire qu'on avale des choses, on respire des choses, on se passe des choses sur la peau, et à un moment, il faut se débarrasser de tout ça. Et le foie, c'est l'organe émonctoire le plus puissant, puisqu'il y a 1,5 litre de sang qui passe par le foie. Il y a 4,5 litres qui passent dans le cœur, donc par le cœur. Donc vous voyez que le foie, c'est un organe extrêmement important dont personne ne parle. Et l'état dans lequel votre foie est après un régime est extrêmement important pour contrer l'effet yo-yo.
Bien. Mesdames, rassurez-vous, votre foie est plus résistant que celui des hommes. Et en vrai, pourquoi ?
Tout simplement parce que les œstrogènes, qui sont les hormones sexuelles féminines, protègent le foie des femmes. Ensuite, à la ménopause, les choses s'inversent. Et donc, en fait, les femmes sont extrêmement protégées et particulièrement parce que pendant la grossesse, le foie va avoir un rôle extrêmement important. Et donc, le foie est très protégé chez les femmes.
Bon, votre livre, c'est une méthode. Hein. Il suffit de la suivre, c'est 4 semaines, hein, voilà. Oui. Tout est expliqué jour par jour en plus.
Oui, jour par jour. Et même pour les gens qui consomment bio, par exemple, ou qui mangent sans gluten, on donne les fruits, les légumes par saison. Parce que quand on mange bio, il faut manger local et il faut manger de saison.
Alors je regarde Kim, parce que ça va t'intéresser, Kim. Dans votre pratique, docteur Allouche, il vous arrive de ne pas peser les gens, mais de simplement prendre leur tour de taille. Pourquoi ?
Tout simplement parce que le poids, qu'est-ce que c'est que le poids ? C'est à la fois des organes, des os, une ossature, des muscles et de la graisse. Le problème, c'est que cette graisse-là, il faut la mesurer, et quand elle est extrêmement, entre guillemets, toxique. C'est-à-dire que la graisse...
Mesurez bien votre graisse. Hein.
Pardon ?
Vous mesurez bien votre graisse.
Oui, moi je la mesure tout.
Et là, vous êtes même en train de l'attraper.
Oui, exactement, parce que quand j'en parle, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai un petit peu de ventre, parce que les hommes, après 50 ans, ont toujours un peu de ventre. Pour des tas de raisons, parce qu'ils ont des récepteurs sur les cellules qui stockent le gras, qui sont un peu moins sensibles à la testostérone, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà.
Oui, venez un mardi, on en parlera.
Il y a la ménopause, mais il y a aussi une andropause qui est beaucoup plus...
Alors, on m'a dit que ça n'existait pas.
L'andropause ?
Ouais, bah, que c'était un mythe.
Non, c'est pas un mythe, c'est-à-dire que tout simplement, il y a de la testostérone totale, qui est sécrétée, et souvent les hommes sécrètent leur testostérone très très longtemps, mais il y a la libre et la pas libre. Et c'est la libre qui fait la libido, qui fait la puissance sexuelle. Voilà. Donc je
parle. Alors on revient, on réattrape nos graisses.
Donc ces graisses-là,
autour du
ventre. Quand on a de la graisse autour du ventre et de la graisse abdominale, les cellules qui la constituent sont des cellules qui vont, si elles sont trop remplies, vont envoyer des messages inflammatoires qui vont passer dans la veine porte, c'est-à-dire la veine qui draine tout le tube digestif et qui va au foie. Et ces hormones inflammatoires, qu'on appelle les cytokines, vont enflammer le foie et aussi enflammer le cerveau. Donc, en fait, plus on a une ceinture abdominale importante, plus on a des risques cardiovasculaires et on a des risques d'inflammation. Et c'est pour ça que les hommes, souvent, ont une bedaine. On appelle ça parfois du ventre à bière, c'est pas de la bière. Hein. C'est que tout simplement, on mange un peu trop, on mange beaucoup de sucre, on fait pas d'exercice. On a un ventre qui est assez important, on s'y fait, on s'adapte. La réalité, c'est que les cellules qui constituent cette graisse vont générer, parce qu'elles sont trop remplies, des hormones qui vont inflammer le foie. Et donc, ils vont aussi inflammer vos vaisseaux et inflammer votre cerveau. Donc,
mais ce principe d'inflammation, il est assez peu connu, mais il est assez important à comprendre.
Oui, il est très, très important. Je pense que si j'avais pu choisir, j'aurais été inflammatologue. Parce que l'inflammation qu'on appelle de bas niveau ou de bas grade, pour les spécialistes, c'est une petite inflammation tous les jours. L'inflammation, qu'est-ce que c'est ? L'inflammation, c'est vous coupez, par exemple, vous coupez, mais à ce moment-là, vous avez un œdème, ça gonfle, c'est chaud. Et puis ça fait mal. Et à ce moment-là, la peau va recruter des cellules de défense, des cellules de reconstruction, va faire des vaisseaux. C'est ça l'inflammation. L'inflammation, c'est bien quand ça commence, ça défend et ça s'arrête. Le problème, c'est que quand vous avez une alimentation qui n'est pas saine, quand vous ne épurez pas votre organisme en faisant de l'exercice, parce que faire de l'exercice, en fait, la réalité, c'est que ça vous permet d'épurer votre organisme. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est extrêmement important. Il ne peut pas y avoir de perte de poids sans exercice physique. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la perte de poids soit faite avec un régime trop restrictif, parce que si vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas maintenir vos muscles. Si vous ne maintenez pas vos muscles, vous reprendrez du poids ipso facto. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Je reviens à l'inflammation. C'est que l'inflammation, justement, quand elle est tout le temps, c'est-à-dire ces cellules qui sécrètent des hormones inflammatoires, eh ben, qu'est-ce qui va se passer à un moment ? Les cellules qui sont chargées de vous défendre, les cellules immunocompétentes, eh ben, elles vont se dire, oh ben, celui-là, je le laisse passer parce que de toute façon, ça fait longtemps que je le vois là. Et donc, leur seuil de réactivité devient plus élevé. Et parfois, un petit virus que vous aviez depuis très longtemps, quand vous étiez enfant, qui était caché dans des terminaisons nerveuses, un jour, il relève la tête. D'habitude, quand il lève la tête, il se prend deux macrophages, deux globules blancs qu'il décapite. Et là, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, il va faire des mutations. Et ça peut être la porte ouverte à des maladies dégénératives ou à des cancers.
Bien, combien de types de graisses existent-ils ?
Vous voulez dire alimentaire ?
Non, de graisses sur nous, parce que j'ai vu que vous dites qu'on avait deux types de graisses.
Oui.
Alors alimentaire, non, ça, on n'est pas touché.
Il y a la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire celle...
Viens me montrer ta caisse sous-cutanée.
Alors, lui, c'est... Faites voir, venez, approcher.
Approcher. Alors, la radio, c'est bien, on aurait
vous
filmé.
Vous avez de la sous-cutanée.
Oui.
Alors, la sous-cutanée, ça peut poser des problèmes esthétiques, mais vous êtes très beau, je vous dis tout de suite.
Merci.
ça peut poser des problèmes sous-cutanés. Elle est bonne, cette graisse. La pire...
On peut prendre rendez-vous, si vous voulez.
La pire, c'est celle qui est sous le péritoine, c'est-à-dire cette membrane qui entoure le tube digestif. Quand elle est à l'intérieur du tube digestif, à l'intérieur de cette membrane, ce qu'on appelle le péritoine qui protège le tube digestif, à ce moment-là, vous comprenez bien que lorsqu'elle souffre, elle envoie l'inflammation directement dans le foie.
Voilà, c'est plutôt celle que tu as toi, Philippe. Tu vois ce que
je sais.
Moi, j'ai de la sous-cutanée.
Je me suis pas approché du docteur sur ma carrière.
Monsieur peut éventuellement interagir sur mon corps.
Et moi, on va mettre
un peu plus de temps.
Voilà, en tout cas, la règle, c'est faire de l'exercice et contrôler ses apports de sucre.
Bien. Vous dites qu'on a vaincu les hépatites, et c'est vrai qu'on a vraiment investi beaucoup, la recherche a beaucoup investi, pour, en tout cas, et tant mieux,
puisqu'on
peut dire que les hépatites, ça y est, c'est fait.
Virale, voilà. Et infectieuse.
Mais que paradoxalement, il y a plein d'autres maladies qui progressent, des maladies de société.
Oui, tout à fait. Alors, le foie, si vous voulez, pendant des années, les pathologies, puisque le foie, c'est hépatique, hépatos, H-E-P-A-T-O. Donc, les hépatites, elles étaient virales, les hépatites A, les hépatites B, les hépatites C, qui ont fait des...
D'ailleurs, avant, on disait toujours une hépatite virale.
Il y avait les non A, non B, les E, les D, les C. Et en fait, on a l'industrie, les médecins, la recherche ont développé des produits qui fait qu'aujourd'hui, globalement, les hépatites, quand elles ne sont pas fulminantes, malheureusement, il y a des hépatites fulminantes, qui sont à peu près à 5 à 10% des hépatites, eh bien, à ce moment-là, on guérit de son hépatite. Alors, on est fatigué, mais l'organe, le foie, vous l'avez vu dans le livre, il a une caractéristique particulière, il peut se régénérer.
Ouais, c'est-à-dire que même si on vous coupe un bout de foie, c'est le seul organe qui repousse, d'une certaine façon.
S'il va bien.
Oui.
C'est-à-dire que si le virus est parti, qu'il retrouve une activité normale. Vous comprenez bien qu'un foie avec quelqu'un qui picole, qui mange trop de sucre, qui est fatigué, eh ben, il ne va pas retrouver sa capacité à se régénérer. Exactement. Donc il y a deux nouvelles maladies, dont une particulièrement. Alors, c'est des acronymes anglais.
Alors elle a la cote, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a un monsieur à la télévision quand même qui en a souffert, et c'est peut-être lui qui a... Oui. On va dire illustrer la nage.
Voilà. Alors il y a deux niveaux. Il faut quand même pas affoler les gens. C'est pas ce présentateur effectivement a vraiment souffert. Il a eu une nage cognée. Donc il a fallu qu'il se soigne. Vous avez deux niveaux. Le NAFL, la non-alcoolique fatty liver, c'est le foie gras. C'est-à-dire qu'on fait du foie gras, un peu comme
la stéatose hépatique.
Voilà. Et puis après, il y a la non-alcoolique stéatose hépatique, la NASH. La NASH, c'est quand à ce moment-là, le foie réagit et commence à, pour se protéger, parce que les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules qui le constituent, souffrent, va faire une petite fibrose tout autour. Il va commencer et cette fibrose, elle va finir par asphyxier le foie et à faire une insuffisance d'abord hépatocellulaire, c'est-à-dire que les cellules hépatiques qui font plus de 100 réactions, il faut savoir que le foie, il régule la glycémie dans le sang, il fait des vitamines, il stocke des vitamines, il fait les protéines, il les fabrique à partir des briques de base que sont les acides aminés, il fait les facteurs de coagulation, il fait la bile pour pouvoir bien digérer, il fait tellement de choses. Vous comprenez bien que quand ces cellules commencent à être coincées, commencent à étouffer, et bien à ce moment-là, c'est le début des ennuis. Et la NASH, c'est une maladie qui se développe énormément parce que on consomme beaucoup de sucre, il y a du sucre un peu partout, et que ce sucre-là, si on ne l'élimine pas, c'est-à-dire, vous comprenez bien qu'un adolescent qui bouge tout le temps, pas un adolescent qui joue au Game Boy, hein, un adolescent qui bouge tout le temps, c'est une vraie chaudière. Il peut avaler n'importe quoi, de toute façon, il va le brûler. Un homme de 40 ans, une femme de 40 ans ou de 50 ans, qui n'a pas d'exercice, qui a une vie stressée, qui bosse, qui est sédentaire, et ainsi de suite, eh ben, le foie, il va souffrir de cette quantité de sucre qui est un peu trop importante. Pourquoi ? Parce que c'est le foie qui métabolise, c'est-à-dire qui transforme, par exemple, le sucre des fruits, le fructose.
Le fameux bon sucre.
Alors, c'est le bon sucre quand on le mâche avec les fruits. Pourquoi ? Parce que dans un fruit, vous avez ce fameux fructose, qui est le sucre des fruits, sucre. Et le foie doit transformer le fructose en glucose, parce que le seul...
Carburant.
Le seul carburant qui est utilisable par le cerveau et les muscles, c'est le glucose. Mais pour faire ça, le foie, ça lui demande beaucoup de travail. Donc, vous mangez une orange ce matin. Vous la mangez, vous avez de l'eau, des fibres, des minéraux, du fructose. Tout ça, ça va se digérer tranquillement. L'estomac va découper, les enzymes vont travailler, on va extraire le sucre. Tout va bien, vous allez mettre, 20 minutes, une demi-heure, un peu plus pour digérer. Vous prenez un verre de jus d'orange dans lequel il y a 4 oranges. Et vous avalez ça. D'un coup, votre foie va se retrouver avec 4 fois sa dose de fructose. Et comme c'est le seul à le métaboliser en glucose, le fructose, c'est le seul, n'est métabolisé que par le foie. D'accord ? Et bien à ce moment-là, ça va lui demander beaucoup de travail. Et quand il fait ça, il ne peut pas faire autre chose.
C'est-à-dire que, en fait, se charger en vitamines et en jus d'orange, comme on nous l'a fait croire pendant des années en disant c'est bon, c'est peut-être une bêtise parce que ça demande au foie de travailler beaucoup plus.
Alors, vous êtes...
Le giga jus d'orange avec 4 oranges, c'est pas la bonne idée.
Non, c'est pas la bonne idée. Sauf, encore une fois, vous faites de l'exercice, vous travaillez dehors, vous avez une activité, bon. Mais cette dose de charge sur un foie, eh ben, c'est pas une bonne idée. Le fruit, ça se mâche, ça ne s'avale pas. Voilà. Donc, il faut... Je suis désolé. Alors,
si je comprends bien, c'est que finalement, les jus, pour vous, ce sont les jus qui ne sont pas une bonne idée.
Exceptionnel, le jus. Ouais. Qui mange 4 oranges le matin ? Il les mâche 4 oranges le matin. Jamais vous ferez ça. Est-ce que c'est naturel ? Non. Je veux dire, à un moment, il faut être dans le bon sens. Alors, c'est sûr... Vous savez, le problème dans l'alimentaire...
Cocktail de vitamines.
Oui, mais enfin, le cocktail de vitamines, il faudrait que le jus soit frais. S'il est en bouteille et qu'il est resté à la lumière, il n'y a plus une vitamine. Il faut avoir plein de bon sens. Je veux dire, personne n'irait manger 4 oranges le matin. Ce qu'il faut, c'est avoir un peu de bon sens. Et se dire... alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire un jus quand on en a envie. Une fois par semaine, vous faites un super jus, c'est un vrai kiff. Vous faites votre kiff. Emma, faites votre kiff. Mais de là à transformer le kiff exceptionnel en kiff quotidien, ce n'est pas comme ça que la vie est faite. Comprenez ? On ne peut pas tout le temps avoir des repas de fête et avoir des kiffs tous les jours. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la vie. Notre organisme, il adore la régularité.
Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On ne vous a rien fait.
Il adore. Non, non.
Vous êtes gentil avec nous.
Je suis très gentil.
On fait un kiff aux vitamines.
Mais je suis motivé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal qu'une maladie comme la NASH progresse. Ça n'est pas normal.
Mais la NASH, c'est la maladie du foie gras. Qu'est-ce que vous nous parlez des jus de fruits ?
Eh bien, tout simplement parce que quand vous faites le fructose, quand le foie transforme le fructose, eh bien, à ce moment-là, il met le sucre en excédent de côté dans sa propre matrice, sous forme de gras, parce que le sucre se stocke un petit peu sous forme de glycogène, qui est une molécule, où, en gros, avec un petit tas de sucre, et tout le reste, quand il ne sait pas quoi en faire du sucre, il le transforme en triglycérides, en gras.
Ah, les fameux.
Voilà. Mmh. Et ce gras, il va le stocker, où ? Il va le stocker dans votre ceinture abdominale, dans vos cuisses, dans votre visage, sur vos bras, si vous avez de la place. S'il n'y a plus de place, il va le stocker dans sa matrice propre.
Bien, le docteur Reginald Allouche est avec nous. Première émission sur Beurre FM. C'est passionnant, le foie. C'est un organe passionnant. C'est l'usine, l'épuration, la station d'épuration du corps. Votre livre s'appelle « La méthode hépato-détox », puisqu'il faut, pour d'abord commencer à mincir, eh bien, il faut commencer à détoxifier son foie.
Bah, c'est le paradoxe du livre, c'est qu'en fait, le foie, il détoxe, il vous détoxe.
Ouais.
C'est lui qui détoxifie.
Mais il va falloir quand même aussi détoxifier.
Mais lui, il faut faire attention à lui, parce que c'est votre organe vital. Je vous rappelle que le traitement d'une nage compliquée, c'est la greffe. D'accord ? Donc, avant d'arriver là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'il faut du temps pour faire une nage. Donc, on a tout le temps. Pour nos auditeurs qui écoutent, s'ils écoutent et s'ils livrent le bouquin, eh ben, à ce moment-là, ils vont comprendre ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué.
Vous êtes là jusqu'à 10 heures, donc là, on marque une pause.
Allez, on marque une
petite pause. Comme vous êtes arrivé en retard, je vous sers un café.
Je ne suis pas arrivé en retard, je suis arrivé à 9 heures pétante, cher ami.
Ouais, enfin, et des brouettes, comme on dit. 01 53 48 3000, si vous voulez poser vos questions au docteur Alouche. Il y répond dans un instant.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé. On parle du foie ce matin avec le docteur Régina Lalouche, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. On parlera beaucoup de diabète avec vous dans des prochaines émissions. Vous publiez la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Et le foie, on le voit ce matin, c'est l'organe clé, l'acteur majeur de la minceur, mais il faut le détoxifier.
Oui, il faut l'aider parce que quand on fait un régime, en fait, on va modifier son alimentation et il faut trouver des éléments et des nutriments qui vont lui permettre à lui de ne pas trop se charger. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé du fructose et on a parlé, bien entendu, de l'influence du sucre sur le foie, puisque au fond, on parle souvent du diabète. Vous savez qu'il y a deux types de diabète. Hein. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète qui touche les enfants et les adolescents. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ce sont des enfants, des ados qui prennent une infection, qui attrapent une infection, quelle qu'elle soit. Et génétiquement, ils vont faire des anticorps contre leur propre pancréas, détruire leur pancréas. Et il faut s'injecter 3-4 injections d'insuline par jour. C'est assez stable, c'est à peu près 10% des diabétiques. Mais 90% des diabètes sont des diabètes de type 2. C'est des diabètes qu'on avait en général vers 45-50 ans, aujourd'hui c'est même 35-40 ans, et c'est lié à une mauvaise consommation, mauvais comportement alimentaire, et surtout un manque d'exercice, parce que l'exercice c'est fondamental. Alors, pourquoi c'est fondamental pour le foie par exemple? Il faut savoir que dans notre organisme, on a les artères qui amènent le sang oxygéné par les poumons aux organes, aux cellules, et puis le sang veineux, c'est-à-dire celui qui est un peu plus, qui est plein de gaz carbonique, qui va aller vers le poumon pour être régénéré. Mais il y a aussi des nerfs qui vont innerver pour la douleur, pour les sensations et ainsi de suite. Et puis il y a un quatrième élément qui est le système lymphatique. Alors c'est quoi le système lymphatique? C'est un système qui est exactement parallèle au système artériel et veineux et qui en fait transporte la lymphe. La lymphe, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu, un liquide visqueux qui va circuler le long du corps et qui va aller à la rate, qui va aller au foie et qui porte en fait les cellules qui vont vous protéger, les cellules lymphatiques en fait, et donc ces cellules lymphatiques.
Alors c'est marrant parce qu'on dit souvent c'est un lymphatique, mais ça
oui,
va...
lymphatique.
Oui, l'expression.
Alors voilà. C'est très vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que pour vos artères et vos veines, vous avez un cœur qui bat et qui fait que ça bouge. La lymphe, il y a pas de cœur. La lymphe qui circule, elle ne circule que parce que vous allez bouger. Et donc, quelqu'un qui ne bouge pas, vous le savez, parfois dans les familles, il y a quelqu'un qui a des gros poteaux, des jambes, qui sont des vrais poteaux quand ils sont assis, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle un lymphœdème. C'est-à-dire que la lymphe ne circule plus, elle stagne, et ça fait des gros...
Ça fait des œdèmes, c'est ça, ouais.
Des œdèmes, et puis ça fait... Voilà. Donc il faut absolument faire circuler sa lymphe. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le foie reçoit les graisses du tissu lymphatique. Donc il a des connexions avec la lymphe, puisque c'est un organe qui vous débarrasse des vacheries. Donc, il a besoin...
La station d'épuration, qu'on disait tout à l'heure.
La centrale, vraiment une grosse centrale.
Elle travaille tout le temps.
Voilà, parce que les autres organes émonctoires, donc qui vous débarrassent... Émonctoire, c'est un mauvais mot, mais c'est le mot scientifique. C'est quoi? C'est le poumon qui vous débarrasse du gaz carbonique, c'est le rein qui vous débarrasse des produits dans l'urine, c'est le tube digestif qui fait les selles, et puis c'est la peau qui transpire. Voilà, c'est ça.
Bah, autrefois, on parlait de vos humeurs.
Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et là, le foie, c'est lui qui fait tout ce qui passe par le sang et tout ce qui est venu par le tube digestif. Il s'en occupe. Il a plus d'une centaine de réactions chimiques qu'il fait tout le temps. Alors, je reviens à la lymphe. La lymphe, pour terminer sur la lymphe, c'est que quand vous faites de l'exercice, votre lymphe, le tissu lymphatique est propulsé par les muscles, les muscles des jambes, par exemple. C'est pour ça que marcher, ça fait du bien. Et à ce moment-là, la lymphe va circuler. Comme elle va circuler, elle va amener les produits toxiques au foie, qui va vous en débarrasser, et ainsi de suite. Si vous ne bougez pas, la lymphe va mettre beaucoup de temps à circuler. Alors bien sûr, quand vous allez vous coucher par gravitation, elle va un peu circuler, mais elle ne circulera pas très vite. Et c'est pour ça que les gens qui font de l'exercice physique ont souvent moins d'infections que les autres, parce qu'ils ont un système d'épuration qui fonctionne mieux. Vous comprenez bien que si vous avez un égout qui stase, où les liquides restent comme ça, et ben ça puera, ça marchera moins bien que si vous avez un égout qui fonctionne et qui est drainé.
Chabane est avec nous au standard au 01 53 48 3000. Chabane, merci de votre patience.
Oui, merci à vous aussi, c'est gentil.
Chabane, oui.
Bonjour, je suis content d'avoir un docteur qui va peut-être m'expliquer un petit peu plus ma maladie. Tout à l'heure, il parlait de kiff et ça m'a un peu ému, c'est pour ça que j'ai appelé. En fait, moi, j'ai jamais eu de kiff depuis que je suis né. J'ai une maladie qui est pas très connue.
Oui.
Et mon médecin, à l'époque, qui était le professeur Baudon à l'hôpital Trousseau, il m'a dit, le foie n'est pas opérable.
Oui.
Et alors, comment s'appelle votre maladie, Chabane?
Comment s'appelle? Oui, bonjour, Chabane.
C'est une intolérance au fructose.
Ah, vous avez une intolérance au fructose, d'accord.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui, il y a effectivement des gens, ils sont rares, vous êtes un personnage rare.
Ouais,
vous avez l'intolérance au fructose.
Mais, de naissance.
Oui, mais justement, l'intolérance au fructose, c'est, au fond, c'est, vous pouvez la gérer. Parce que
je la gère, il suffit que je ne mange pas de fruits,
voilà.
Pas de jus d'orange, pas de coca, pas de chocolat, rien. Voilà.
Alors,
en gros, rien.
Voilà.
Alors attendez, parce que là, vous dites pas de chocolat, mais il y a du fructose dans le chocolat?
Alors, ça dépend dans quel pays vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, dans les sodas et le chocolat, vous avez plus du fructose. Alors qu'en Europe, pour l'instant, on ne peut pas édulcorer les sodas avec du fructose. On ne peut le faire qu'avec le saccharose. Voilà.
Oui, ouais, j'y ai pas le droit non plus.
Voilà, bah oui, parce que dans le saccharose,
c'est un dérivé apparemment.
Voilà, c'est glucose. En fait, vous avez des sucres simples monosaccharides comme le fructose, c'est que du fructose. Et dans le saccharose, c'est glucose plus fructose.
Ah ouais.
Donc en fait, quand vous prenez du saccharose, on pourrait dire moindre mal, pas pour vous, Chabane, parce que vous pouvez pas tolérer le fructose, mais pour les autres auditeurs, il y a quand même du fructose dans le saccharose. Voilà.
Ouais,
donc
ouais.
il faut regarder vraiment avec précision ce qu'il y a dans les canettes, ce qu'il y a dans les gâteaux.
Non, mais c'est clairement je peux pas les boire.
Bah, oui.
Si je le bois, je suis vraiment pas bien.
Voilà. Cela dit, je vais vous dire,
je peux boire aucun soda.
Oui, mais vous avez des kiffs, Chabane, pour pas les kiffs, parce que la vie, c'est quand même se lever ce matin et faire des kiffs.
J'aime le fromage.
Voilà. Vous avez des bonnes pistaches, vous avez des amandes, avez des noix de cajou, vous avez des tas de choses qui peuvent vous faire vivre le kiff.
Je me récupère avec les sucres lents, effectivement.
Exactement. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec.
On fera une émission sur les sucres lents. Pas tout de suite.
Voilà.
Oui, pas de problème.
Voilà. En tout cas, Chabane, bravo. Et puis, c'est bien. Si vous en parlez comme ça, c'est qu'à mon avis, j'ai pas trop de doutes sur votre capacité.
Ouais, vous êtes devenu un spécialiste de votre maladie, Chabane.
Oui, j'ai pris l'habitude. Quand j'étais petit, honnêtement, je vous dis franchement, quand j'étais invité à un anniversaire, je faisais tout pour l'éviter parce que j'ai pas le droit de manger les gâteaux et tout. Mais bon, maintenant j'ai 40 ans, je le vis très bien. Mes enfants ne l'ont pas. On est deux frères à l'avoir sur trois frères. Quatre frères.
Ouais.
Donc, après, ça devient une habitude en fait. Tu vis avec.
Je peux vous poser une question, Chabane?
Dites-moi.
Vous êtes mince ou vous êtes un peu fort?
Je mesure 1m62 et je dois faire, je pense, dans les 70 kilos.
Ouais.
Le problème, c'est que je mange, mais je grossis jamais, je prends juste un petit peu de ventre.
Oui, d'accord. Et vous faites de l'exercice?
J'ai repris un peu le foot parce que justement, j'ai envie de perdre ce ventre qui me perturbe un peu. Je me dis, je mange pas dessus et je comprends pas pourquoi je grossis du ventre.
Oui. Parce qu'il y a aussi dans votre alimentation, peut-être, par exemple le fromage, il faut peut-être choisir des fromages de chèvre ou des fromages de brebis plutôt que des fromages de vache. Parce que
mais là, c'est des fromages frais, là.
Non, mais dans le fromage, si vous voulez, vous avez... le problème du lait, c'est pas ni magique ni quoi que ce soit, c'est que le fromage, les chèvres et les brebis, d'ailleurs, nous sommes des descendants de pasteurs, pas de vachers, je vous le rappelle.
Ah bon, d'accord.
Abraham était pasteur, il n'était pas vaché. Hein. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les brebis et les chèvres ont des chaînes, des acides gras qui sont à chaîne moyenne ou à chaîne petite chaîne, alors que les vaches, c'est des chaînes longues. Et donc, c'est des gras qui sont beaucoup plus toniques, parce qu'il faut que le veau se lève avec le lait et qu'il puisse se défendre contre les prédateurs très, très vite.
Voilà. D'accord, ok. Et c'est normal que je ne peux pas manger de carottes et de tomates et tout, parce qu'on est d'accord, il y a du fructose dedans.
Il y a un peu de fructose.
Ouais, c'est
un
peu de fructose. Ça que je me sens mal quand j'en mange, d'accord.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est un peu délicat, mais j'ai trouvé un sucre que j'arrive à manger.
Lequel ?
C'est le dextrine maltose.
Ah oui, c'est un extrait, oui. C'est le maltose, c'est ouais. Un autre type de sucre. Alors, le problème du maltose, c'est que souvent, on en reviendra dans une autre
émission. Ouais, parce que
son index glycémique
et surtout les sucres dérivés.
Son index glycémique est un tout petit peu élevé. Donc ça, il faudra que vous regardiez et peut-être, vous savez, vous déshabituer un peu du goût du sucre, parce que au fond. On voit bien avec les enfants, quand par exemple vous donnez à des enfants, quand vous commencez à leur donner des yaourts, si vous ne mettez pas de sucre, après ils n'aimeront pas le sucre. Hein, et c'est comme le café.
Après, il y a d'autres avantages. Hein. J'ai jamais eu de caries.
Bah oui.
Voilà, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de force. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être plus. Trop d'énergie en fait.
Très bien, Chaban. En tout cas, continuez, faites du foot et faites attention à vos genoux dans le foot après 40 ans.
Merci de votre témoignage, Chaban.
Merci beaucoup.
Avec beaucoup de plaisir. On a Fatima qui est avec nous, 01 53 48 3000. Fatima, bonjour et bienvenue.
Allô, bonjour. J'ai pris l'émission. Bonjour à vous, bonjour docteur.
Bonjour.
J'ai pris l'émission en route et c'est... Moi, j'ai un problème. Ça fait un bon bout de temps. Je suis fatiguée. Mais alors, fatiguée, mais lessivée.
Oui.
Dernièrement, j'ai fait des. Bon, mon médecin m'a prescrit des analyses.
Oui.
Et d'après mon médecin, j'ai un microbe dans l'intestin.
Ah, on parle du foie aujourd'hui. Donc,
un microbe dans l'intestin. Ah, et
donc,
oui.
Moi, mon problème, c'est que j'ai un certain âge et j'ai une alimentation vraiment débridée et je prenais du soda régulièrement.
Ah oui.
Régulièrement. Et donc, on m'a dit que c'était à cause de ça. Est-ce que c'est vrai que c'est à cause de ça?
Alors, écoutez. Oui, Fatima, c'est une très très bonne question parce que en fait, on sait aujourd'hui qu'avec l'âge, on a des éléments. Vous savez que dans notre flore bactérienne intestinale, on a quasiment 10 fois plus de germes que de cellules dans notre corps. Et il y a à peu près 1000 espèces différentes. Et puis il y a une espèce particulière qui s'appelle les levures. C'est-à-dire qu'ils sont des champignons qui vivent normalement dans notre tube digestif, mais il faut pas qu'ils soient en trop grand nombre. Mmh. Et en fait, quand on a, comme vous êtes en train de me le décrire, quand on boit beaucoup de soda, quand on mange un peu beaucoup de pain, beaucoup de choses comme ça, les levures se développent beaucoup. Et comme les levures se développent, elles deviennent inflammatoires et elles ont même un effet un peu vieillissant, hein, sur parce qu'elles sont en compétition avec nous, parce qu'elles veulent nous coloniser. Donc, un peu de levure, c'est bien. Trop de levure, c'est pas bien. C'est pour ça qu'avec l'âge, surtout quand on a peu d'activité physique, c'est-à-dire que notre péristaltisme, c'est-à-dire que la tonicité de l'intestin a un petit peu diminué, il faut un petit peu diminuer tout ce qui est amidon, produits sucrés, parce qu'ils vont fermenter dans le tube digestif. Les levures peuvent se développer et à ce moment-là, entraîner chez vous des gènes importantes. Alors, il se peut aussi que d'autres germes puissent profiter pour se développer. Il faut que vous retrouviez une alimentation équilibrée. Vous savez, le sucre est arrivé dans l'alimentation des gens il y a à peu près un siècle et demi. Avant, le sucre n'existait pas. Il n'existait qu'au printemps et l'été, lorsque les fruits étaient mûrs.
Oui.
On pouvait se battre pour un arbre. Hein. Regardez, si vous regardez comment certains animaux se comportent en été, quand il y a des fruits, ils sont capables de se battre. Et nous, au fond, on n'était pas habitués à avoir ce sucre. Et puis un jour, tout a explosé. On avait du sucre partout qui venait.
La guerre de la betterave.
La guerre de la betterave. Les Antilles avec Joséphine de Beauharnais qui était fille de gens qui faisaient de la canne à sucre. Et puis, souvenez-vous de la richesse du Maroc et de Mogador à l'époque, qui s'appelle Essaouira aujourd'hui, qui était le principal port pour les Britanniques d'exportation du sucre. Et à l'époque de la reine Victoria, un kilo de sucre valait le prix d'un kilo d'or. Donc en fait, le sucre est arrivé comme ça massivement. C'est pour ça d'ailleurs que le Maroc est le pays où, par habitant, je crois, on mange le plus de sucre au monde. Et c'est le pays où il y a encore.
Il y a le Mexique aussi, qui ne doit pas être très loin.
Oui, le Mexique, parce qu'ils utilisent beaucoup une.
Mais il y a le maïs aussi.
Il y a le maïs, exactement. Ouais. Donc, il faut vraiment que vous retrouviez il faut que vous soyez beaucoup plus raisonnable avec le sucre. Et vous verrez, tout va rentrer dans l'ordre. Et que si vous pouvez faire des exercices, même si vous pensez que vous êtes un peu âgé aujourd'hui, je vous assure, faire un peu d'exercice tous les matins et vous dérouiller, ça va vous permettre justement d'augmenter votre capacité respiratoire et de pouvoir brûler mieux les aliments que vous consommez.
Et le pain aussi, hein.
Ah bah le pain, c'est le pain, c'est un vrai problème, parce que le pain, c'est la base de l'alimentation pour beaucoup de gens, et qu'en fait il faut mieux manger du pain tradition, des baguettes tradition, parce qu'elles sont réglementées, vous pouvez pas mettre d'additifs, elles peuvent pas être surgelées.
Alors que dans la baguette blanche,
ça peut être des pâtons surgelés qui sont cuits au dernier moment, ouais. Et elle est très très riche en sucre et avec beaucoup d'additifs. Donc ce que je recommande, c'est la baguette tradition et le pain au levain. Pourquoi le pain au levain ? Parce que vous savez que le levain, ça, il est fermenté. C'est un processus de fermentation naturelle, par opposition à la levure industrielle.
Là, on parle de la bonne levure, en fait.
La bonne levure, exactement. Ouais. Une mère de levain, on appelle ça une mère, puisque c'est une mère qui va permettre justement la fermentation. Et l'avantage du levain, c'est que quand vous l'avalez, il y a une certaine acidité dans le pain au levain.
Ouais.
Le gluten va être digéré dans l'estomac, prédigéré, et donc aura moins de toxicité éventuelle pour l'intestin.
Parle du foie ce matin avec le docteur Réginald Alouche, qui est notre invité. La méthode hépato-détox vient de sortir aux éditions Albin Michel, et vous m'insistez durablement et sans danger grâce à votre foie. Vous avez des questions qui concernent votre foie, vous les posez au 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, votre santé à votre foie ce matin avec le docteur Réginald Alouche, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical, et vous publiez la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. C'est aux éditions Albin Michel. On va prendre vos appels dans un instant au 01 53 48 3000. Mais le foie, dites-vous, a sa propre horloge et il fonctionne d'après ce qu'on appelle les cycles circadiens, Schkoun.
Oui, alors, en fait, il faut savoir qu'on a dans le cerveau un noyau qui va être renseigné par le nerf optique, par notre œil,
ouais.
Et qui va dire il fait jour, il fait nuit. Et l'homme est un animal qui dort la nuit et qui vit le jour. Et donc, lorsque vous allez ouvrir les yeux et que le jour apparaît, si le jour apparaît, vous voyez, parce qu'on peut se lever très tôt.
Parce que c'est l'hiver, ouais.
Voilà. À ce moment-là, ce noyau suprachiasmatique va coordonner tous les autres organes qui vont se réveiller.
Supra-chiasmatique. Chiasmatique vous-même.
Voilà.
Ça veut dire quoi, chiasmatique ?
Hein ?
C'est quoi, chiasmatique ?
Chiasmatique, c'est une. Si on, comme, alors, dans le cerveau, les noms sont absolument.
Ah ouais, parce que supra-chiasmatique.
Voilà. Donc, on va. Oui,
c'est bien à la radio, mais je ne vais pas vous faire une conférence.
Je vous parlerai du noyau à Combins après.
D'accord, bien.
Voilà. Et donc, il va réveiller tout le monde. Le problème, c'est lorsque vous avez, par exemple, vous êtes de nuit, vous êtes infirmière de nuit, et à ce moment-là, vous mangez la nuit. À ce moment-là, votre foie, lui, au lieu de se reposer, de dormir, il va s'activer. Et à un moment, ce qui va se passer, il va y avoir une désynchronisation entre la synchronisation du patron, qui est le cerveau, et la synchronisation du foie. Et le foie va avoir sa propre horloge. Et le problème, c'est que la nuit, on le sait, les travailleurs de nuit sont des gens qui sont plus gras, qui font plus de risques cardiovasculaires et qui ont plus de risques d'obésité et de diabète, parce que justement, le foie a son propre rythme. Et il y a, bien entendu, j'en parle dans le livre, il y a des hormones très particulières qui, normalement, devraient les aider. Il y a une hormone FGF21, par exemple, qui gère l'appétence au sucre et aux alcools. Et cette hormone va être sécrétée de façon très, très différente. Et c'est ce qui fait que les gens qui travaillent la nuit ont souvent une appétence particulière au sucre. Et donc, ils vont grossir. Et c'est voilà. Presque une maladie professionnelle, le diabète.
La protéine FGF21.
Voilà. Voilà, donc ça c'est
la fameuse. Mais personne n'en parle, hein, vous êtes le seul.
Non, personne n'en parle parce que d'abord ce sont des travaux issus de la recherche, c'est particulièrement les gens de Diderot qui travaillent dessus, de CNRS. Ouais. Et donc en fait, on s'aperçoit au fond que le foie est un organe qui peut prendre le relais, qui peut avoir sa propre horloge et qui peut vivre sa vie. Et vous comprenez bien que...
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne mange pas en fonction des cycles jour-nuit ?
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le foie, normalement, le soir... Lorsque vous avez terminé de dîner, c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas grignoter la nuit et se lever la nuit pour manger. Le soir, le foie va se mettre au repos. C'est une usine qui, comme toutes les usines, doit être nettoyée, doit être propre pour le lendemain. Votre tube digestif, où vous avez tous ces milliards de germes qui sont tranquilles, hein, puisque vous n'avez pas d'ennui avec votre tube digestif. Pourtant, on a 10 fois plus de germes dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Eh bien, chaque espèce va se nettoyer aussi, va dormir. Parce que ça, il faut savoir, par exemple, il y a une chercheuse américaine qui a publié un truc extraordinaire, qui a montré que chaque germe dans notre tube digestif parle 2 langues. Il parle sa langue et il parle la langue du voisin. Parce qu'ils se parlent entre eux. Parce qu'ils sont,
de son voisin germe.
Voilà, de son voisin germe. Et tout ce monde-là va dormir, les mouvements de l'intestin vont s'arrêter, et ils vont pouvoir se régénérer, être tranquilles, finir les éléments de digestion, et tout va bien se passer. Si vous grignotez à minuit, par exemple, vous avez fini le film, et vous dites, oh ben, j'ai une petite faim, vous allez re-réveiller le foie, et à ce moment-là, il va se remettre à travailler, mais les muscles ne vont pas travailler, puisque ce que vous allez manger, vous n'allez pas le brûler, puisque vous allez vous coucher. Et donc, à ce moment-là, tout ce que vous allez prendre, lui, il va le mettre de côté, et il va le stocker. Donc en fait, c'est pour ça que le grignotage nocturne est quelque chose qu'il faut absolument bannir. Et c'est pour ça que le foie et son horloge doivent être respectés. Si vous ne travaillez pas la nuit, respectez votre cycle, ce qu'on appelle le cycle nyctéméral, nyct, nuit et la journée. Si vous travaillez la nuit,
c'est un mot qui fait peur, nyctéméral. Hein. Oui, presque gros mot, je ne vais pas dire comme ça.
Oui, c'est comme, vous savez, c'est comme ce mot extraordinaire qui est, quand on est capable de lire la nuit, on est...
Des nyctalopes.
Nyctalopes, voilà. Donc à ne pas utiliser...
Fabrice qui est là en face de moi, connaissait aussi nyctalopes.
Voilà, vous êtes très bon. Ouais. Mais, et donc ce qu'il faut, c'est, si vous travaillez la nuit, à ce moment-là, faites votre repas. Faites un bon repas le soir, vous allez travailler, ayez juste une petite collation vers 2h du matin, plutôt liquide, et le lendemain matin, prenez un petit déjeuner.
Mais pour ceux qui travaillent tard le soir, par exemple, qui rentrent du travail à 21h, 22h ou 23h, puisque ce sont leurs horaires quotidiens, et qui mangent, enfin qui dînent en rentrant, quelle est la solution pour ces gens-là?
La solution, c'est de ne pas trop charger le soir, quoi. C'est-à-dire d'inverser.
Quoi qu'il arrive, même si c'est son seul repas de la journée, on ne charge pas.
Parce que les gens qui nous écoutent savent très bien que quand vous mangez tard le soir, le lendemain matin, vous n'avez pas faim. Vous mangez quasiment rien. Moi, je connais des tas de gens, ils rentrent le soir, parce que la vie en ville, c'est une vie...
Son rythme, on va dire.
Voilà. Ouais. Et le matin, ils ne mangent pas. Et comme ils ne mangent pas le matin, ils vont avoir très très faim le soir quand ils vont rentrer, et le cycle comme ça, infernal, continue. Alors que quand on mange le matin, tout ce qu'on mange le matin sera brûlé, si on bouge. À midi, il sera encore brûlé l'après-midi. Le soir, tout ce que vous mangez, vous allez le stocker.
Samia, vous êtes avec nous au 01 53 48 3000. Samia, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour docteur et bonjour Mélenchon. Voilà, c'est la première fois que...
Alors, si vous m'appelez Mélenchon, vous et moi, on ne va pas être copains.
Ah non, je ne sais pas.
Bon, mais appelez-moi comme vous voulez. Alors, le docteur, écoute votre question, Samia.
Voilà, moi, je me suis inquiétée pour ma sœur. J'ai vu cet été qu'elle avait des varices sur le foie. Bien qu'elle est un peu dans la médecine, pas du tout de votre côté, mais enfin, je vais vous dire, je me suis beaucoup inquiétée. Et j'ai allumé la radio ce matin, je vous ai écouté, je me suis dit, mon Dieu, c'est le médecin qui lui fout, j'espère. Oui. Bon, bref. Et elle mange la nuit, parce que c'était une sage-femme, donc elle veillait, etc. Mais elle a très souvent mal. Alors, je me suis
au
dit,
foie.
Au foie, oui, moi, je suis allée, à Paris et elle est à l'étranger.
Oui.
Donc, je me suis dit, voilà, c'est le médecin qu'il lui faut. Moi, à mon avis, hein, je pense, parce que c'est ça, tout ce que vous avez dit ce matin. D'ailleurs, moi, ce matin, j'ai pris une compote et sans sucre. Je vous ai suivi.
Oui.
Voilà. Moi, j'ai une polyarthrite, donc j'essaye de me maintenir. Bon, bref.
Oui.
Et je souhaiterais, voilà... je souhaiterais savoir, je dis bien, où on peut vous contacter, voilà, que je puisse, quand elle vient à Paris, que je puisse prendre rendez-vous avant et que je puisse lui ramener, je crois que c'est un très beau cadeau que je vais lui faire.
Bon, alors, là, elle est en train de vous demander votre 06 ou votre 07 à l'antenne.
Ça, c'est moi qui appelle.
D'accord.
Parce que je suis inquiète pour ma sœur, parce que je la vois inquiète. Elle a passé des radios,
Elle habite où, votre sœur?
Elle habite en Algérie.
Elle habite en Algérie. Parce que, l'Algérie est un pays où il y a effectivement pas mal de... Il y a des bons radiologues, il y a des bons échographistes.
Oui,
ce qu'il faudrait...
bien sûr, mais elle est très souvent sur Paris.
Oui, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est qu'avant qu'elle le prenne contact avec moi, si elle le souhaite, parce que je ne voudrais pas transformer... Je ne veux pas faire de la publicité pour moi, ce n'est pas le but. Mais... ce qui serait bien, c'est qu'elle ait un bilan complet avant, parce que comme ça, on pourra savoir.
Qu'est-ce que vous demandez vous comme donc avant.
Un bilan pour le foie, c'est d'abord des examens de sang. On va mesurer ce qu'on appelle azathalate, c'est-à-dire les enzymes hépatiques, voir s'ils sont en train de souffrir. Ça, c'est un examen très simple. Il y a aussi, on peut regarder aussi une protéine qui s'appelle la CRP, qui est une protéine C-réactive. C'est la protéine qui mesure l'inflammation. C'est pas très discriminant, mais ça permet de donner un panorama, bien entendu une échographie, un bilan, une échographie du foie, un bilan lipidique. Enfin, il y a quelques, il y a quelques examens qui permettent de savoir si effectivement, si elle a des varices sur le foie, c'est qu'un professionnel a donné son opinion. Les varices sur le foie, ça peut être, ça peut monter ce qu'on appelle une hypertension portale. Et donc effectivement, il faut qu'elle consulte.
Qu'est-ce que c'est qu'une hypertension portale ?
C'est-à-dire que quand vous avez des varices, c'est que tout simplement les vaisseaux ont du mal à passer le sang, c'est-à-dire qu'ils grossissent. Pourquoi ? Parce que la pression à l'intérieur est très forte, et c'est souvent lorsqu'on a un foie qui est ce qu'on appelle en insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire ça peut être une nage par exemple, hein, chez les travailleurs de nuit effectivement, et donc ils ont des varices sur qui font une hypertension portale, et ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, ça dépend des soins qui vont être faits et qui vont être prodigués à cette personne. Voilà.
Alors Samia, vous allez rester en ligne, on vous donnera les coordonnées
hors antenne,
hein, puisque sinon le Conseil de l'Ordre, qui est vigilant et qui écoute notre émission tous les matins, va nous tomber dessus. Vous restez en ligne, Samia. Alors, vous mettez votre numéro pour Samia et on le passe à René qui réalise l'émission. Et on accueille Rabat au 01 53 48 3000. Rabat, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour Rabat.
Oui, je vous appelle pour j'ai ce problème-là de foie là. Il y a pas longtemps, j'ai fait une échographie déjà.
Oui.
Et ça fait longtemps que mon médecin traitant me dit que j'ai un foie, il est gras. Mais je suis quelqu'un, une personne qui touche pas à l'alcool, quoi. Je bois pas d'alcool.
Ah,
quoi.
C'est intéressant ça. Ouais.
Oui. Je ne comprends pas d'où ça vient. Bon, je prends un traitement parce que pour mon cœur, c'est du cardigique et de ténormine.
Oui.
C'est un traitement à vie.
Oui.
Je prends suite à un infarctus que j'ai eu il y a à peu près 5 ans à peu près.
Oui.
Mais la cigarette, j'ai arrêté, ça fait plus de 6 ans.
Mm-hmm.
Et je ne comprends pas, à chaque fois que je fais une prise de sang,
oui.
Mon médecin traitant s'inquiète parce que mon foie est toujours gras.
D'accord.
C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui fait un peu attention à moi.
Alors, attendez Rabat, parce qu'on va arriver à la fin de l'émission, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit qui est très important. Rabat se dit, moi je bois pas une goutte d'alcool, comment je peux avoir ce foie gras ?
Alors écoutez, il y a deux ennemis de votre foie, c'est l'alcool, vous ne buvez pas d'alcool, c'est très bien, et il y a le fructose. Le fructose, c'est l'ennemi de votre foie. Donc, dans votre consommation quotidienne, il faut que vous mesuriez, vous regardiez combien de fruits vous mangez par jour. Les fruits, il ne faut pas dépasser 2-3 par jour. Hein. Il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de fruits parce que c'est permis, c'est autorisé. Ils pensent que c'est bon.
Mmh.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est savoir quelle est votre consommation globale de sucre et de pain particulièrement. Il y a également le fait de savoir si vous pratiquez ou pas un peu d'exercice. Parce que souvent, comme vous m'avez dit que vous avez fait un infarctus, vous avez de la ténormine, donc vous avez probablement une petite hypertension artérielle. Mais ça ne contre-indique pas le fait de faire un peu de musculation, un peu de natation, un peu de vélo. Des choses qui vont permettre à vos muscles, parce qu'il faut savoir que les muscles sécrètent des hormones qui sont extrêmement bonnes pour le cœur. Et donc, il faut profiter de cet événement. On a en nous tous nos médicaments. Et donc, il faut absolument que vous puissiez augmenter votre activité physique, en parler avec votre médecin et avec un coach qui connaisse, qui ne vous mette pas en danger, parce que comme vous avez fait un infarctus,
c'est pas le moment de se lancer dans le marathon.
Il faut commencer très très doucement, mais le faire un peu comme un métier. Comme un job, surtout quand on a plus de 60 ans.
Bien, merci Rabat pour votre appel. On aura l'occasion d'en reparler, docteur Alouche. Je rappelle que vous publiez la méthode hépato-détox chez Albin Michel, mincir durablement et sans danger grâce au foie.